bon, on dirait de joie. La joie de Dieu. Alléluia. Alléluia.
On dirait de joie.
J'élève mes mains en victoire, célébrant Jésus, roi de gloire. Je m'avancerai vers son trône, jetant à ses pieds ma couronne.
Je lève mes mains en victoire.
C'est là notre prière, te glorifier, puisque tu nous as créés pour te glorifier, te refléter, t'adorer, t'aimer. C'est là notre prière, prends nos vies encore et continue de les transformer à ta gloire, afin que nous puissions réjouir ton cœur et être des bons témoins dans ce monde perdu qui a tant besoin de ta lumière, de ton message, de ton salut, de ton pardon. Seigneur Jésus, tu nous as fait du bien par ta présence. Fais-nous du bien maintenant par ta parole. Ta parole est une lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds. Tu as dit aussi, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Seigneur, tu as dit aussi, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Il n'y a que ta parole qui est la vérité et qui rend libres les hommes. Libres de leur esclavage, de leur passion, de leur péché, de leur culpabilité. Merci de ce que tu veux nous parler maintenant. Que cette parole soit une lumière pour nous. Aide-nous à la comprendre, Seigneur. Aide-moi aussi à l'annoncer avec l'amour de Dieu, avec l'esprit de vérité. Seigneur, merci pour ta présence, pour ta parole que tu nous as donnée, que nous voulons serrer dans notre cœur. À toi la louange et la gloire pour toujours. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni sois-tu. Nous lisons à la fin de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 27, et à partir du verset 32, nous lisons ceci en parlant de la crucifixion de Jésus. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne », ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Alors, avec lui, furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres. » Et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, « Je suis fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » C'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Il appelle Eli. » Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Les scribes, les pharisiens, tous ces hommes qui étaient là, pourtant c'étaient des gens religieux. « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix », voilà le cri de ces hommes. Ce qui voulait dire qu'ils ne comprenaient pas le message de la croix. Pourquoi Jésus est mort? Le message central de l'Évangile est la mort de Jésus sur la croix. Si nous ne comprenons pas pourquoi Jésus est mort, alors, nous n'avons pas compris le vrai message de l'Évangile. Et ces gens qui étaient religieux, ces gens qui étaient des chefs religieux, ne comprenaient pas. Ils lui disaient, « Mais si tu es le Fils de Dieu, si tu es roi, mais descends, sauve-toi toi-même. » Et même les brigands qui étaient à côté de lui disaient, « Mais sauve-toi et sauve-nous aussi. » Nous voyons par là qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Jésus était mort sur la croix. Vous savez que, après 2000 ans de christianisme, il y a encore des hommes et des femmes qui ne savent pas pourquoi Jésus est mort, qui ne connaissent pas le véritable message de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Car si nous saisissons le message de la croix, nous ne pouvons plus être les mêmes personnes. C'est l'apôtre Paul qui s'écriait lorsqu'il prêchait l'évangile: la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Voyez-vous, pour ceux qui périssent, pour ceux qui ne croient pas, c'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Et le mot « puissance » dans le texte grec veut dire « elle est la dynamite de Dieu ». La croix, c'est la dynamite de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour détruire le péché, pour détruire la culpabilité de l'homme, pour détruire les passions de l'homme, pour détruire les chaînes de Satan dans la vie de l'homme, pour détruire les chaînes du désespoir, de la vanité, de l'obscurité, de l'ignorance dans la vie de tant d'individus. La croix, c'est la dynamite qui détruit tout cela. Gloire à Dieu. La prédication de la croix est une folie. Est une folie pour ceux qui périssent. Un jour, quelqu'un était en train, un prédicateur, annonçait ce message, que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Tout à coup, il y en a un dans l'auditoire qui s'écrie: « Mais monsieur, ce que vous dites là, c'est une folie !» Et il ne s'est pas rendu compte, et le prédicateur lui a dit: « Mais vous venez justement de me confirmer ce que je viens de dire. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est un message incompréhensible. Mais pour le chrétien qui doit comprendre ce message, c'est le plus important des messages. Et l'apôtre Paul, ailleurs, dans les Galates, nous dit aussi: « Car je n'ai la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Ce qui compte avant tout, c'est d'être une nouvelle créature. Et la croix a la puissance de faire de nous des hommes et des femmes nouveaux. » Amen. La croix a cette puissance-là. Qu'est-ce qu'il y a dans la croix qui touche notre cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans la croix que le diable n'aime pas aussi? Qu'est-ce qu'il y a dans la croix que les hommes détestent? Parce que les hommes n'aiment pas aussi cela. Qu'est-ce qu'il y a dans la croix? Il y a plusieurs choses dans cette croix. Et j'aimerais brièvement vous raconter une petite histoire pour illustrer ce message de la croix. Car il est vital d'en comprendre le sens. Certains diront: Jésus est mort sur la croix. Oui, bon, ben, il est mort pour tout le monde. Il est mort pour le monde entier. Mais sans plus, il est mort pour le monde entier. Et ils pensent qu'en disant que Jésus est mort pour le monde entier, ils ont compris le message de la croix. Mais vous savez, ce n'est pas suffisant de dire que Jésus est mort pour le monde entier. Il y en a un qui croit aussi que Jésus est mort pour le monde entier. Vous savez qui c'est? C'est le diable. Le diable aussi croit que Jésus est mort pour le monde entier. Mais il y a une chose qu'il ne fait pas. Il n'obéit pas au message de la croix, au message de l'évangile. Il n'y a pas d'obéissance dans le cœur du diable. Il croit, c'est une foi intellectuelle. Mais ce n'est pas un engagement de sa vie. Pour beaucoup, la croix, c'est une connaissance intellectuelle. Oui, au catéchisme. Oui, il y a des années, quand j'étais petit, on m'a parlé de cela. Voyez-vous, c'est un souvenir, c'est une connaissance intellectuelle, mais sans aucun engagement dans sa propre vie, sans aucun changement. Jésus est mort. Les autres diront: ah, moi je sais pourquoi Jésus est mort sur la croix. Pour nous donner un exemple d'amour. Regardez-moi cela. Là encore, il y a une fausse conception. Jésus est venu, c'est vrai, nous donner l'amour, nous donner un exemple d'amour. Mais sa croix est beaucoup plus que cela. Sa croix est beaucoup plus qu'un exemple d'amour. Sa croix n'est pas la mort. La mort de Jésus sur la croix n'est pas la mort d'un homme qui donne un bon exemple. La mort de Jésus sur la croix est la mort d'un sauveur pour nous, pécheurs. Gloire à Dieu. Un jour, j'ai lu cette histoire pour bien comprendre le sens de la croix. Je pense que c'est important. Jésus racontait des paraboles et nous avons besoin d'entendre certaines histoires qui peuvent nous illustrer cela. Un jour, on raconte l'histoire d'un jeune homme, d'un enfant plutôt, qui s'amusait avec ses camarades au bord de l'eau. Et cet enfant, bien sûr, ne savait pas nager. Et en s'amusant près de cette eau, tout à coup, il est tombé à l'eau. Et dans cette eau-là, c'était une eau mauvaise, une eau sale, où il y avait plein de maladies, de microbes, il y avait tous là-dedans. Et quand l'enfant est tombé dedans, bien sûr, il a crié « au secours, au secours, au secours ». Les autres gamins qui étaient là ne savaient pas nager, alors personne ne pouvait l'aider. Et il était en train de se noyer. Mais il criait, et là, il y avait un monsieur qui a passé. Il a entendu ce cri. Et quand il s'est approché, il a vu cet enfant qui était en train de se noyer. Tout habillé, il s'est jeté dans l'eau. Mais il savait que c'était une eau polluée, pleine de microbes. Il savait qu'en se jetant dans cette eau, il risquait une maladie mortelle. Il s'est quand même jeté dans cette eau. Il a sorti l'enfant et il l'a délivré. Mais quelque temps après, ce qui devait arriver arriva, c'est que cet homme a attrapé une maladie et il est devenu paralysé du côté droit de tout son corps. Si bien que, après, lorsqu'il marchait, il marchait comme cela, n'est-ce pas? Il était complètement paralysé. Et un jour, cet homme, paralysé comme cela, et qui boitillait, avançait dans la rue. Les gamins, des gamins l'ont vu passer, et ce petit enfant aussi a vu passer cet homme qu'il ne connaissait pas, avec les années qui ont passé. Et tout le monde a commencé à se moquer de cet homme. Ah, regardez le monsieur là-bas, regardez-le. Vous savez, les enfants, comme c'est cruel parfois, comme c'est cruel. Et ils se sont moqués de cet homme qui était paralysé, qui ne marchait pas. Regardez le monsieur, regardez le monsieur. Et cet homme a aperçu dans le groupe de gamins l'enfant qu'il avait sauvé. Il l'avait reconnu. Et l'enfant qui était là criait, eh oui, là, regarde-moi ça, dans quel état tu es, toi? C'est triste, qu'est-ce que... Alors, oui, c'est cruel, l'enfant. Mais l'homme n'a rien dit. Il a suivi son chemin, brisé par la douleur. Mais il est allé dans une direction particulière. Il est allé dans la direction de la maison de cet enfant. Et il est entré là pour discuter avec le papa. Et quand le gamin est entré à la maison, en entrant par la porte, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que cet homme paralysé était là en train de discuter avec le papa. Alors il s'est dit, ça y est, je suis fichu. Le bonhomme a dû dire à mon père que je me suis moqué de lui et que ça y est, je vais recevoir la raclée. Alors cette fois, je vais la recevoir la raclée. Alors il ne savait plus où se placer. Il avait envie de quitter la maison. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la raclée. Si je ne m'en vais pas, je suis fichu. Au moment où il était prêt à partir, son papa l'appelle. En la circonstance, on va l'appeler Max. Max, viens voir Max. Alors lui, il s'est dit, ça y est, cette fois c'est la raclée. Il était en train de se serrer les fesses, il était en train de tout se serrer pour que ça fasse pas trop de... Hein? Oui, papa, viens dire bonjour au monsieur. Dis bonjour au monsieur. Alors, il n'osait pas regarder. Et bonjour monsieur. Mais tu ne sais pas qui c'est? Alors le monsieur l'a tout simplement salué et l'a béni comme cela. Et après, lorsque ce monsieur était parti, le papa lui a dit, sais-tu qui est ce monsieur? Et là, il a commencé à expliquer ce qu'il en est. Ce monsieur est paralysé parce qu'un jour, lorsque tu étais petit, il t'a sauvé la vie. Tu étais en train de te noyer, il s'est jeté à l'eau dans cette eau polluée pour te sauver, pour te délivrer. Quand l'enfant a entendu ça, il a été littéralement brisé. Il s'est dit, je me suis moqué de celui qui m'a sauvé la vie. Je me suis moqué de celui qui m'a sauvé la vie. Mais ce qui l'a consolé, c'était ce regard d'amour de cet homme lorsqu'il est parti de la maison, en le bénissant. Mais son cœur était littéralement brisé. Je me suis moqué de celui qui m'a sauvé la vie. Et lorsque, le lendemain, cet homme passait encore dans le coin et que les gamins se moquaient de cet homme, croyez-vous qu'il s'est joint aux camarades pour se moquer de lui? C'était... Les autres se moquaient de lui, mais lui, plus du tout. Pourquoi? Parce qu'il avait compris quelque chose d'autre. Quelque chose s'était passé, et il a compris ce qui s'était passé, le concernant. Et depuis ce jour-là, plus jamais ce jeune homme ne s'est moqué de cet homme. Au contraire, parce qu'il a réalisé en lui son sauveur. Celui qui a souffert à sa place, celui qui a porté sa maladie et qui, sans lui, aurait été perdu. Et désormais, toute sa vie, son attitude à l'égard de cet homme a complètement changé. Voyez-vous, il y a là le message de la croix, en somme. Il y a là le message de la croix. Jésus, quand nous le voyons sur la croix, tout le monde se moquait de lui. Tout le monde. Le jeune homme est là. Il se moquait de son sauveur. Il ne savait pas que cet homme était en train de mourir pour était mort à sa place. Et on a tous été un peu comme cela. On s'est moqué. Qui ne s'est pas moqué du Seigneur? Qui, d'une manière ou d'une autre, sans s'en rendre compte, ne s'est pas moqué du Oh, l'Évangile. Oh, Jésus. Oh, la foi. Oh, tout cela, on s'est moqué. Alors qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de se moquer de celui qui a donné sa vie pour nous. S'il y en a un qui nous a aimés, c'était bien lui. S'il y en a un qui nous a aimés à un tel point qu'il était prêt à donner sa vie, à souffrir les conséquences d'un tel acte, c'était Jésus. Alors voyez-vous, ce jeune homme a compris cela, le fait que Jésus est mort à sa place. Et c'était un acte d'amour qui a conduit Jésus à faire cela, comme c'était un acte d'amour qui a conduit cet homme à faire cela, n'est-ce pas vrai? C'était un acte d'amour. Et cet homme, ce jeune gamin, a compris cela. Il a compris aussi cela. Mais cet amour extraordinaire. Quand nous regardons la croix, nous voyons Jésus mort à notre place. Mais nous voyons aussi l'amour de Dieu, un amour extraordinaire que nous ne pouvons comprendre. Cet homme aurait pu dire, mais moi je veux sauver ma vie, je ne peux pas mourir comme ça, tomber malade ou être paralysé à vie à cause de quelqu'un d'autre. Non, l'amour, c'est quelque chose qui nous dépasse, n'est-ce pas? Et l'amour de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu nous a aimés alors que nous étions haïssables. Cet homme a aimé ce jeune homme, cet enfant, alors que cet enfant se moquait de lui. Alors que cet enfant était son ennemi, cet homme est mort pour lui. La parole de Dieu dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Regardez cet amour. C'est un amour qui aime son ennemi, qui va jusqu'au bout. Quel amour! Il est mort à notre place et il est mort pour des ennemis. Car nous n'étions pas des gens bien. Nous pensons bien souvent être des gens bien, mais la Bible dit que nous sommes des pécheurs, des ennemis. Nous avons tous fait le mal d'une manière ou d'une autre. Vous savez, les gens qui étaient là autour de la croix, c'était des gens religieux. On penserait que les gens religieux soient des gens différents des autres. Mais vous savez, si quelqu'un n'a qu'une religion, il est comme les autres. Car la religion ne change personne. Et je n'ai pas une religion. Nous n'avons pas une nouvelle religion. Jésus n'est pas venu amener une nouvelle religion. Il est venu amener une nouvelle vie. Alléluia! Une nouvelle vie! Un nouveau message, un évangile qui libère l'homme de sa culpabilité et des ténèbres. Cet amour extraordinaire. Quand ce jeune homme regardait cet homme, combien il m'a aimé. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsqu'on regarde Jésus, on doit penser à quelqu'un qui est mort à notre place. C'est moi qui devais mourir là-bas à cause de mon péché. Mais il est mort à ma place. Quel amour! Je ne comprends pas un tel amour, mais c'est un amour extraordinaire. C'est mon sauveur. Vous savez, le diable peut dire de Jésus, c'est le sauveur. Et beaucoup de gens disent de Jésus, c'est le sauveur. Mais cela ne fait pas d'eux des enfants de Dieu. Vous savez à quel moment nous devenons enfants de Dieu? Non plus en disant Jésus est le sauveur, mais que Jésus est mon sauveur. Vous savez que le diable aussi peut dire que Jésus est le sauveur. Mais il ne peut jamais dire « Jésus est mon sauveur ». S'il pouvait dire « Jésus est mon sauveur », il ne serait plus le diable, n'est-ce pas vrai? Il ne serait plus le diable, mais il peut dire « Jésus est le sauveur ». Il y a beaucoup d'hommes qui disent que Jésus est le sauveur, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. C'est quand nous disons que Jésus est mon sauveur, qu'il est mort pour mes péchés, sur la croix. Ce sont mes péchés qui l'ont crucifié, ce sont mes péchés qui l'ont fait souffrir, ce sont mes péchés qui l'ont fait monter sur cette croix. Ce sont mes péchés qui me séparaient de Dieu. C'est pourquoi c'est mon sauveur. C'est celui qui a payé ma dette sur le bois de la croix. C'est celui qui a donné sa vie pour moi. L'apôtre Paul disait, Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Lorsqu'on connaît le Seigneur, on n'a plus peur de mourir.
La mort, c'est le jour de notre couronnement. C'est le jour où nous entrons dans la gloire de Dieu. Un chrétien n'a pas peur de mourir, bien sûr. On a toujours de la peine à laisser les siens. Il y a toujours une certaine tristesse, c'est vrai. Nous sommes encore sur la terre. Mais le chrétien n'est pas esclave de la mort, comme tant d'hommes, tant de femmes, qui fuient cela, qui mettent leur tête dans le sable, en disant, en ne pensant pas à leur mort, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il adviendra d'eux. Mais le chrétien n'a plus peur de cela. Le chrétien n'a plus peur. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voyez-vous, lorsque je regarde la croix, je me dis, c'est moi qui aurais dû mourir. Le châtiment qui était sur lui, c'est moi qui devais le subir. Mais le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. C'est à ma place qu'il est mort. Désormais, j'abandonne mon péché, j'abandonne ma rébellion, j'abandonne tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie et je la lui consacre pour le temps et pour l'éternité. Alléluia! C'est pourquoi les premiers chrétiens étaient des hommes qui étaient prêts à mourir pour le Seigneur, n'est-ce pas vrai? C'est pour cela que quand on appelait les témoins, vous serez mes témoins, les témoins, c'était des martyrs. C'était des hommes et des femmes qui étaient prêts à mourir pour le Seigneur. Aujourd'hui, lorsqu'on se moque de nous, on commence à abandonner le Seigneur. Alors que les premiers chrétiens, eux, étaient prêts à donner leur vie pour le Seigneur. Aujourd'hui, quand on entend parler de Jésus, ou quand on prononce le nom de Jésus, les gens ont honte. Mais les premiers chrétiens étaient prêts à donner leur vie, à passer par le martyre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris le message de la croix. Comme cet enfant qui regarde cet homme, il est mort à ma place. Combien il m'a aimé. Et la troisième vérité est celle-ci. Désormais, cet enfant, est-ce qu'il va aimer cet homme? Ce sera l'homme qu'il va aimer le plus, qu'il va respecter le plus dans sa vie. N'est-ce pas vrai? Plus jamais, désormais, il se moquera de lui. Au contraire, chaque fois qu'il le verra dans la rue, il dira aux autres, c'est l'homme qui a sauvé ma vie. Autrefois, il a eu honte de lui, mais maintenant, il pointera du doigt aux autres en disant, celui-ci a sauvé ma vie. Désormais, ma vie a changé. Je ne peux plus vivre pour moi-même, ni me moquer de lui. Je veux vivre pour lui plaire et lui obéir tous les jours de ma vie. Alléluia. La croix, lorsqu'on regarde la croix, il y a cet amour extraordinaire pour nous. Et en retour, il y a la réponse de l'amour. Jésus nous dit, voici ce que j'ai fait pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour moi? En retour, nous nous courbons, nous nous repentons de nos péchés. Car nos péchés nous séparaient de Dieu. Mais le sang qui a coulé à la croix, c'est le sang qui purifie de nos péchés. C'est le sang du juste qui purifie le cœur des hommes qui est injuste. C'est le sang de l'innocent qui purifie les cœurs des coupables. Le sang, le sang, le sang de Jésus, c'est le passeport qui nous conduit au ciel, mes amis. Il n'y en a pas d'autre. Le passeport pour le ciel, c'est le sang de Jésus. Ce ne sont pas les bonnes œuvres, ce ne sont pas les prières, ce ne sont pas votre argent, ni votre religion, ni quoi que ce soit. Le passeport qui nous ouvre le ciel, c'est le sang précieux de Jésus qui a coulé à Golgotha pour nous purifier, pour nous pardonner. Amen. Lorsque je regarde la croix, alors je me glorifie de cette croix, car là se trouve l'homme qui m'a aimé, l'homme qui vous a aimé. Cet homme n'était pas seulement un homme, il était Dieu aussi. C'est Dieu manifesté en chair. C'est Dieu le Sauveur qui est mort pour chacun d'entre nous. Jésus est l'homme le plus extraordinaire du monde. Il vaut la peine de vivre et de mourir pour lui. Cela vaut la peine d'annoncer son message, de proclamer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités du monde. Il revient bientôt. Soyons prêts. Jésus revient. Ceux qui se sont moqués de lui seront perdus pour toujours. Car un jour, Dieu jugera les hommes. Il y aura un temps de jugement. Pour ceux qui se sont moqués de lui, pour ceux qui ont eu honte de Jésus, leur part sera dans les temps de feu et de soufre, la Bible dit. Mais pour ceux qui n'ont pas eu honte de Jésus, ils seront assis avec lui sur le trône et ils régneront éternellement avec le Seigneur. Jésus a dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si tu me renies devant les hommes, alors je te renierai devant mon Père et devant les anges qui sont dans les cieux. Mes amis, n'ayons pas honte de Jésus, de notre Sauveur. C'est le seul qui nous a aimés. C'est le seul, lui, le juste, le pur, le saint, qui est mort pour nous pécheurs. S'il y en a un qui nous a aimés, alors que nous étions haïssables, c'est Jésus.
Personne ne peut dire que Dieu ne l'aime pas, personne. C'est un mensonge. Les hommes nous ont déçus, mais il y en a un qui nous a aimés et dont l'amour ne fera jamais défaut. C'est Jésus. Jésus, lorsqu'on prononce ce nom, nos cœurs vibrent. Un amour extraordinaire renaît pour lui. C'est l'homme qui a fait naître l'amour dans le cœur des hommes, le véritable amour, l'amour divin, l'amour céleste. J'ai donné ma vie pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour moi? Ne nous moquons jamais du Seigneur. Il est le Sauveur. Il a donné sa vie pour moi. Désormais, je veux vivre ma vie pour lui. Peu m'importe les autres. Peu m'importe ce que les autres disent. Si tu donnes ta vie au Seigneur, des amis t'abandonneront. Si des amis t'abandonnent, c'est que ce n'étaient pas des vrais amis. Mais Dieu te donnera les vrais amis. Ce sont ceux qui aiment le Seigneur et qui n'ont pas honte de Jésus. Ainsi, soyons fidèles. La Bible dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Un trône t'attend dans le ciel. Une couronne t'attend dans le ciel. Une place t'est réservée dans le ciel. Quel amour! Tu dis, mais c'est vrai, c'est pas vrai, moi je suis rien du tout. Un trône t'attend, c'est pas une cabane qui t'attend. Ce n'est pas une cabane, c'est un trône, c'est une couronne, c'est un palace qui t'attend. C'est son amour qui a préparé tout cela, alléluia. Combien, voici je m'en vais, vous préparez une place et je reviendrai vous chercher. Il nous prépare une place, alléluia. Une place t'attend dans le ciel. Si un jour tu n'y seras pas, ce ne sera pas de la faute, ce sera de ta faute. Viens, prends place au festin de l'agneau. Viens, viens, dans la repentance, dans les larmes et dans la foi. Jésus, tu es mort pour moi. J'étais pécheur, perdu. Tu es mon sauveur, tu es mort à la croix, à ma place. Car je ne pouvais me sauver moi-même. Christ est mort pour mes péchés. Je te donne ma vie désormais et je vais t'obéir. Mon sauveur et mon Dieu, comme Thomas. Que nous puissions lui dire, mon Seigneur et mon Dieu, ma vie désormais t'appartient. Que le nom du Seigneur soit béni éternellement. Amen. Amen. Seigneur Jésus, comment ne pas t'aimer? Toi qui nous as aimés le premier, comment ne pas nous donner à toi? Comment ne pas abandonner cette vie stérile, cette vie inutile, cette vie de rébellion qui nous rend malheureux pour nous tourner vers toi? Et toi, tu es là pour nous purifier, nous laver, mettre sur nous cette robe blanche de la justice de Jésus, mettre un anneau à notre doigt, l'anneau de la communion avec Dieu, et nous mettre au banquet, au festin des noces de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et maître. Oui, il y a de la place pour chacun. Des millions sont venus déjà à la croix accepter Jésus comme leur sauveur, mais il y a encore de la place. Il y a de la place à la croix. Il y a de la place dans le cœur de Dieu. Un trône t'est réservé. Viens, abandonne toute ta vie. Repens-toi sincèrement et crois en l'Évangile au Seigneur qui est prêt à pardonner, à purifier, à entrer dans ta vie et à faire de toi une nouvelle créature. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Maintenant, le moment favorable, c'est aujourd'hui. Le jour du salut. Que Dieu soit béni, que notre Sauveur soit éternellement exalté, dès maintenant et à jamais. Amen.